VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 19 octobre 2017, en direct de Washington, Idrissa Sidoulia et Jean-Roger Bion. Pour commencer les titres.
Au Togo, appel à de nouvelles marches par l'opposition après les violences meurtrières de mercredi.
La CPI a intensifié ses enquêtes sur les responsables des violences post-électorales de 2010-2011 en Côte d'Ivoire, déclare la procureure Fatou Bensouda.
Ouverture aujourd'hui à Brazzaville du sommet des pays des Grands Lacs, la sécurité en RDC et en RCA à l'ordre du jour.
L'International Crisis Group demande au président Paul Biya d'agir vite pour désamorcer la situation dans les régions anglophones du Cameroun.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco.
Pour l'instant, le journal.
Une journée de tension attend probablement les Togolais ce jeudi. La coalition des 14 partis de l'opposition a appelé à une nouvelle journée de marche au lendemain des violences meurtrières de mercredi. Kay Lawson, notre correspondante à Lomé.
Le Togo a connu une journée meurtrière ce mercredi. Selon le gouvernement, le bilan est de 4 morts par balle, dont 3 à Sokodé, ville située à plus de 330 km au nord de Lomé, ce qui porte à 8 le nombre de morts enregistrés depuis le début de cette semaine. Un chiffre que conteste l'opposition, qui indique avoir relevé 2 décès à Lomé hier, contre 1 annoncé par le ministre de la Sécurité, Yark Damhan. Ce dernier, dans son bilan en fin de journée, a fait savoir qu'une soixantaine de personnes ont été interpellées et plusieurs autres blessées, dont certaines par balles. Ces heurts violents entre les forces de l'ordre et manifestants ont été dénoncés aussi bien par le gouvernement que par l'opposition. La coalition des 14 partis maintient sa marche prévue pour ce jeudi. Elle fait savoir que si la répression continue, elle organisera tous les jours des manifestations publiques. Rappelons que depuis le 10 octobre, le gouvernement togolais a interdit toute marche les jours ouvrables, une mesure que l'opposition n'entend pas respecter. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
La CPI a intensifié ses enquêtes sur les responsables des violences post-électorales de 2010-2011 en Côte d'Ivoire, quel que soit leur statut ou appartenance politique. C'est ce qu'a affirmé Fatou Bensouda à Fraternité Matin, le quotidien national ivoirien. Précision d'Ekia Badou.
La procureure générale de la CPI affirme que son bureau s'emploiera à faire traduire en justice les principaux responsables des violences post-électorales. Madame Bensouda précise que ces enquêtes sont menées en toute discrétion et confidentialité, sans citer de nom. Les violences de 2010-2011 ont fait près de 3000 morts suite à une dispute sur les résultats des élections en Côte d'Ivoire. Deux camps ont été accusés d'avoir commis de nombreuses exactions, l'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ancien leader des Jeunes Patriotes, sont actuellement jugés à la CPI pour crimes contre l'humanité. Les deux hommes ont plaidé non coupables. L'opposition pro-Gbagbo dénonce une justice des vainqueurs car jusque-là, aucun responsable du camp Ouattara n'a jamais été inquiété. Le président Alassane Ouattara a affirmé en février 2016 qu'il n'enverrait plus d'Ivoiriens à la CPI, estimant que son pays a maintenant une justice opérationnelle.
La situation sécuritaire en République démocratique du Congo et en Centrafrique sera au menu d'un sommet des dirigeants des pays des Grands Lacs qui s'ouvre aujourd'hui à Brazzaville. Abdourahman Dia.
Les questions de la paix et de la sécurité en RDC, en Centrafrique, mais aussi au Burundi et au Soudan du Sud, seront à l'ordre du jour de ce sommet des chefs d'État des pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Des experts et des ministres des Affaires étrangères des 12 États membres de la CIRGL ont déjà eu des discussions préliminaires sur les foyers de tension de la région. En octobre 2016, à l'issue d'une réunion à Luanda, les dirigeants des pays des Grands Lacs avaient appelé les États de la région et de l'Afrique australe à fournir des contingents supplémentaires aux forces de l'ONU en RDC. L'objectif était de renforcer les opérations menées contre les groupes armés en étroite collaboration avec Kinshasa. Ces contingents n'ont toujours pas été déployés. La Centrafrique voisine connaît également un regain de violence dans l'est et dans le centre du pays. La présence des casques bleus de la MINUSCA n'a pas permis d'imposer un retour au calme.
Le Centre d'analyse International Crisis Group a exhorté le président camerounais Paul Biya à prendre ses responsabilités et à agir vite dans les régions anglophones du Cameroun où, je cite, « la répression meurtrière des autorités alimente un risque d'insurrection armée ». Fin de citation. La crise qui dure depuis un an dans les régions du nord-ouest et sud-ouest a dégénéré le 1er octobre, en marge de la proclamation symbolique d'indépendance de l'État d'Ambazonie par des militants sécessionnistes, estime International Crisis Group dans un rapport aujourd'hui.
En Ouganda, un homme a été tué hier dans le sud-ouest du pays lors d'échauffourées entre l'opposition et la police qui a interdit les manifestations dites illégales contre un projet de suppression de la limite d'âge pour être élu président. Les précisions, John Lydon.
L'incident s'est déroulé à Rukungiri, la ville natale du leader de l'opposition Kizza Besigye, à l'ouest de Kampala. Le Forum pour le changement démocratique devait tenir une réunion. Selon le porte-parole de la police, le FDC n'a jamais obtenu l'autorisation ni de la police ni des gérants du stade pour cette rencontre, toute chose que conteste M. Besigye. La police a confirmé la mort d'un jeune homme touché par une pierre à la tête et non par une balle. Le pare-brise de la voiture de M. Besigye, qui se trouvait sur place, a également été brisé par des pierres, toujours selon la police. Le FDC entendait discuter du projet de suppression de la limite d'âge qui pourrait permettre à Yoweri Museveni, 73 ans, de briguer un sixième mandat en 2021. Ce projet de loi doit être débattu puis adopté à la majorité des deux tiers lors de deux votes séparés. Deux fois de suite au Parlement, les débats ont été reportés après des batailles rangées entre opposants et partisans du pouvoir.
Au Maroc, près de la moitié des militants du mouvement Irak, qui étaient en grève de la faim pour protester contre leur détention, ont suspendu cette action. Le point avec Solange Niamoulissa.
49 militants et sympathisants sont incarcérés dans une prison de Casablanca dans l'attente de leur jugement. Ils ont été arrêtés entre fin mai et juin à Al-Osaïma dans le nord, foyer de la contestation contre la marginalisation de la région du Rif. Depuis 5 semaines, 38 d'entre eux suivaient une grève de la faim, mais environ la moitié a décidé de la suspendre. Deux des meneurs, Najib Mjik et Mohamed Djelloul, refusent toujours de se nourrir. Depuis la mi-septembre, la cour d'appel de Casablanca a renvoyé trois fois le procès de 21 jeunes âgés d'une vingtaine d'années. La prochaine audience est prévue le 24 octobre. La date du procès de Nasser Zefzaf, leader du mouvement Hirak, n'a pas été encore fixée. Entre 200 et 300 membres de ces mouvements sont derrière les barreaux. Poursuivis pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, tentative de sabotage et de pillage, ils risquent jusqu'à 20 ans de prison.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a dit hier qu'il tenait les leaders militaires birmans responsables de la crise actuelle des réfugiés musulmans Rohingyas. Les propos de M. Tillerson font suite à un rapport d'Amnesty International accusant les forces de sécurité birmanes de purge systématique.
La représentante permanente des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, a dénoncé hier l'Iran pour ce qu'elle a appelé une liste de comportements mauvais dans la région et elle a critiqué le Conseil de sécurité pour ne pas tenir Téhéran responsable de ses actes. Madame Haley parlait lors d'une réunion mensuelle au Conseil qui portait essentiellement sur la situation entre Israéliens et Palestiniens.
En Syrie, deux jours après la reprise de Raqqa aux combattants de l'État islamique, la libération officielle de la ville n'a pas encore été prononcée. La menace des cellules dormantes et le danger des mines n'ayant pas été écartés pour permettre un retour de la population civile.
Le gouvernement espagnol a fait hier une proposition pour surmonter la crise avec les séparatistes catalans. Il a laissé entendre qu'il renoncerait à suspendre l'autonomie de la région si le président catalan accepte de convoquer des élections régionales. Yacouba Ouedraogo.
En principe, c'est aujourd'hui le dernier délai lancé aux séparatistes catalans. Madrid considère qu'une convocation d'élections régionales par Carles Puigdemont serait perçue comme un retour à la légalité. Faute de réponse, Soraya Sáenz de Santa Maria, numéro 2 du gouvernement espagnol, prévient que le processus de suspension de l'autonomie catalane sera lancé. Carles Puigdemont estime que les Catalans lui ont donné mandat de déclarer l'indépendance après le référendum du 1er octobre. Le président indépendantiste est pressé par les milieux d'affaires pour qu'il renonce à ce projet. 800 entreprises ont préféré transférer leur siège social ailleurs par crainte d'une instabilité. Amnesty International appelle à la libération de deux figures séparatistes, Jordi Sanchez et Jordi Cuissa, qui sont en prison. Pour l'Association de défense des droits de l'homme, un tel geste permettrait de faire baisser la tension.
La Minute Éco, Blanche Sabine.
La start-up Andela obtient 40 millions de dollars pour doubler sa base de développeurs et lancer deux nouveaux bureaux en Afrique. Déjà présent au Nigeria, au Ghana et en Ouganda, cette entreprise a été fondée en 2014 pour former des développeurs de logiciels en Afrique et les mettre au service des sociétés de haute technologie. Avec cet argent, la start-up pourra désormais accroître sa base de développeurs de 500 à 1000 et lancer deux nouveaux bureaux au Rwanda et au Ghana. Le président Alassane Ouattara effectue une visite officielle au Ghana. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont signé un accord de partenariat stratégique et trois mémorandums d'entente dans le domaine industriel, l'éradication de la pollution issue des activités illicites d'orpaillage dans le bassin des fleuves Bia et Tanoé entre les deux pays et sur la collaboration dans les domaines de la géologie et des ressources minières. Les deux parties se sont engagées dans le respect et la mise en œuvre effective de l'accord. 60% du nouveau capital du Commonwealth Development Group sera investi en Afrique de l'Ouest dans les 5 prochaines années. Ce financement d'un montant de 2600 milliards de francs CFA sera utilisé dans les secteurs comme le bâtiment, travaux publics, l'agriculture et l'énergie, selon les explications de Marc Pey, représentant CDC Group au cours d'un point de presse à Dakar.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Coupe du monde des moins de 17 ans, Mali-Ghana en quart de finale.
Et oui, hier, le choc africain entre le Ghana et le Niger a tourné à l'avantage des Ghanéens, 2-0. Les doubles champions du monde de la catégorie, les Black Starlets, étaient favoris et la logique a été respectée. C'est sûr, il y aura une équipe africaine en demi-finale, puisque lors du quart de finale, le Mali sera opposé au Ghana. De son côté, le Brésil s'impose face au Honduras en huitième de finale, 3-0. En quart, les Brésiliens affronteront l'Allemagne.
Rabah Majer, nouveau sélectionneur de l'Algérie.
L'ancien international algérien a été nommé sélectionneur de l'équipe de football nationale en remplacement de l'Espagnol Lucas Alcaraz. Annonce de la Fédération algérienne de football, Rabah Majer, âgé de 58 ans, prendra ses nouvelles fonctions aujourd'hui. Il devient le cinquième sélectionneur en 3 ans des Fenech. Les Fenech qui n'ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde 2018.
Soirée de Ligue des champions en Europe.
Le Barça s'est imposé tranquillement contre l'Olympiakos, 3-1. La Juventus a arraché les 3 points face au Sporting, 2-1. Le Paris Saint-Germain a remporté son 3e succès en autant de rencontres, 4-0 à Anderlecht, et conserve la tête du groupe B devant le Bayern Munich qui a largement battu le Celtic Glasgow, 3-0. Malmené par la Roma, Chelsea n'a décroché qu'un point au terme d'un match spectaculaire, 3-0. Ce match nul après le 0-0 concédé par l'Atlético Madrid contre Karabakh assure le statu quo dans ce groupe. Manchester United a enchaîné un 3e succès en gagnant chez le Benfica Lisbonne 1-0. Bâle a pris 3 points précieux à Moscou contre le CSKA, victoire 2-0. Allez, enfin, il reste avec vous la NBA, les matchs de la nuit dans le championnat nord-américain de basketball.
Detroit Pistons contre Charlotte Hornets, 102-90. Indiana Pacers contre Brooklyn Nets, 140-131. Orlando Magic contre Miami Heat, 116-109. Washington Wizards contre Philadelphia Sixers, 120-115. Milwaukee Bucks contre Boston Celtics, 108-100. Memphis Grizzlies contre New Orleans Pelicans, 103-91. Atlanta Hawks contre Dallas Mavericks, 117-111. Et Utah Jazz contre Denver Nuggets, 106-96.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, le gouvernement et les syndicats du CHU sont parvenus à un premier accord depuis le déclenchement d'une grève générale dans cet établissement hospitalier. Les agents du CHU acceptent un mois de salaire pour reprendre le travail dès ce jeudi matin. Reportage de Nguela Ngoussou, notre correspondant à Brazzaville.
C'est jusqu'à tard dans la nuit, à 22h, que le gouvernement et les syndicats du CHU sont parvenus à un minimum d'accord. Un mois de salaire sur les 4 réclamés sera versé aux agents du CHU. Ces derniers s'engagent à reprendre le travail dès ce jeudi matin. Un accord qui ne satisfait pas plusieurs agents et les négociations doivent se poursuivre pour obtenir dans les 15 jours un autre paiement de salaire.
Les agents du CHU et les peuples congolais retiendront de ce que l'intersyndical ce soir a discuté, a parlé avec le Premier ministre et les membres du gouvernement. Nous avons travaillé et bien travaillé. Mais ça n'a pas évolué, ça n'a pas changé. C'est notre cahier de charges qui stipulait que nous avions des impayés, que nous réclamions que ces impayés soient pris en compte par le gouvernement et payés et que les conditions de travail nous soient améliorées parce que figurez-vous qu'il nous manque au CHU du coton, de l'alcool, des gants et que sais-je encore.
Pendant ce temps, le CHU de Brazzaville est devenu un vrai monastère où le silence a remplacé les cris angoissants des malades. Les salles d'hospitalisation et les couloirs du plus grand centre hospitalier du pays sont quasi vides. Depuis le 14 octobre, le service minimum s'est réduit alors que les urgences ne fonctionnent plus. Très discret, les médecins ne se prêtent presque plus aux questions des journalistes.
Il n'y a pas assez de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas venues. Donc on est au nombre de 2 par équipe dans le service. Donc c'est un peu ça. Mais il y a tout le travail.
Beaucoup de malades ont dû quitter le CHU alors qu'ils suivaient des traitements spécialisés. Franck Ndilamalembe, coordonnateur national du mouvement Le Ras-le-Bol Congolais, auteur d'une vidéo sur le CHU et qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, exprime sa tristesse.
Dans certains services, je peux vous dire que c'était vraiment un hôpital fantôme où il n'y avait ni malade, ni médecin. Maintenant, après, vous baladez en montant dans les étages. Dans des étages où il devrait y avoir, je dirais, aller une bonne cinquantaine de malades ou une centaine de malades, et bien vous allez tomber que sur 2 malades. La question qu'il faut se poser, c'est où sont partis ces malades? C'est tout le Congo qui en parle aujourd'hui. Comment on peut laisser le principal centre hospitalier de la République de notre pays être dans le chaos total, faire en sorte qu'il ne puisse plus recevoir ne serait-ce qu'un malade? Et on considère qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui doivent être mises devant les tribunaux pour répondre de leurs responsabilités.
Un dispositif policier a été déployé devant les installations du CHU pour empêcher à tout intrus d'y accéder, mais surtout aux journalistes. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Mali, la procureure de la CPI, Fatou Ben Souda, a terminé sa visite par une conférence de presse qu'elle a animée avec le ministre malien de la Justice. Les questions ont porté entre autres sur l'affaire Aya Sanogo, chef de l'ex-junte de 2012, les exactions commises au Mali et les cas d'impunité par rapport à la situation dans le nord et le centre du pays. Le point avec Kassim Traoré.
Après avoir fait le tour de la ville de Bamako, à travers rencontres et audiences avec les autorités, c'est un parterre de journalistes qui attendait Fatou Ben Souda au niveau d'un hôtel de la capitale malienne. Et pour planter le décor, c'est le ministre de la Justice qui a introduit les débats, Maître Mamadou Ismaël Konaté.
Nous avons eu l'occasion de rencontrer l'ensemble des chefs militaires du Mali. Les organisations de défense des droits de l'homme ont été amenées quelquefois à mettre en cause le comportement de forces de défense et de sécurité sur le théâtre des opérations, de sorte qu'il leur était reproché la violation de droits et de droits fondamentaux de l'homme. Il était important que Madame le procureur rencontre cette hiérarchie militaire, qu'elle entende de la bouche de cette hiérarchie militaire ce qui se fait sur le terrain et ce qui se fait de façon continuelle, de manière à pouvoir former des hommes sur le terrain.
L'affaire Amadou Aya Sanogo et compagnie a été la première question posée au procureur de la CPI, Fatou Ben Souda.
J'aimerais que vous compreniez que notre façon de travailler, nous ne pointons pas à une personne pour dire qu'on va mettre des enquêtes sur lui. Nous faisons notre travail, nous enquêtons, nous réunissons les preuves et nous essayons de déterminer les responsabilités. On détermine si on doit émettre un mandat d'arrêt ou non. Mais venir ici et dire, voilà, telle personne, on met une enquête sur lui, ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Mais ce que je peux vous dire, c'est que notre travail continue, nos enquêtes continuent.
Certes, la CPI ne peut pas tout faire, mais elle continue avec ses enquêtes au Mali, comme l'a souhaité les autorités maliennes.
On sait que mon bureau a déjà indiqué que des crimes comme les assassinats du 11 juillet, je veux dire très clairement que dans nos enquêtes au Mali, nous couvrons toutes les parties qui sont impliquées dans le conflit. Nous nous intéressons aux crimes qui, de notre point de vue, tombent sous le coup la juridiction de la CPI.
Quant au ministre de la Justice du Mali, qui se réjouit de cette visite du procureur de la CPI, il trouve qu'il y a encore du chemin à faire.
Au nord, comme au centre, comme au sud, la situation de crise a permis à un certain nombre de personnes d'avoir un comportement infra-loi, infra-humain. De ce point de vue, le Mali et la Cour pénale internationale travaillent en parfaite coopération pour que tous les crimes soient accessibles dans le champ de compétence de la Cour pénale internationale et résiduellement dans le champ de compétence du Mali.
Il est à signaler que c'est en 2012 que la CPI a été saisie officiellement par le gouvernement de la République du Mali en vue d'ouvrir un examen préliminaire sur les événements qui avaient lieu au nord du Mali. Une situation qui s'est prorogée à l'intérieur du pays. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Dans la région de Diffa au Niger, satisfaction des agriculteurs, la raison, eh bien, la culture du poivron, interdite depuis 2 ans, est de nouveau autorisée. Les autorités soupçonnaient la filière de financer les activités du groupe islamiste nigérian Boko Haram. Écoutez au micro de Claire Morin-Gibourg, le député de Diffa, Lamido Mamouni Haruna.
Je peux vous assurer que les agriculteurs, de façon générale, ont été très contents de cette autorisation, surtout quand on sait que l'activité principale autour de la Komadougou Yobé, c'est la culture du poivron, qui avant l'événement de Boko Haram drainait des milliards et des milliards par an. Ce qui a été autorisé en réalité, c'est plutôt l'utilisation de l'engrais 15-15. C'est une variété d'engrais que les producteurs utilisent, mais qui est couplé normalement avec le super simple, qui est une autre variété d'engrais. Mais il se trouve que le super simple est encore frappé d'interdiction parce que les forces de défense et de sécurité pensent qu'on pourrait fabriquer des explosifs à partir du super simple.
Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce qu'on a trouvé des bombes fabriquées à base d'engrais?
Bon, là, je ne saurais vous répondre. J'imagine simplement, il se base sur la composition de cet engrais. Mais ce qui est sûr, cet engrais est vendu comme des petits pains sur les marchés du Nigeria frontalier, au niveau de Damasak, au niveau de Malamfatéry, et aussi au niveau du lac Tchad, du côté du Tchad. Donc, les autorités ont interdit la vente de cet engrais-là. Mais les agriculteurs, eux, ils vous disent que la qualité de la production, ou même la quantité, dépend du couple 15-15 plus le super simple. Maintenant, c'est à défaut qu'ils utilisent exclusivement le 15-15, l'engrais 15-15. Si on veut avoir une production abondante, il faut forcément coupler les deux.
Est-ce que vous pensez aussi que c'est un signe que la région est un petit peu plus calme dorénavant?
Oui, je le pense honnêtement, madame. Je pense que certainement l'insécurité prend de plus en plus une autre forme, c'est-à-dire une forme de banditisme. Vous savez, ce n'est pas forcément toutes les attaques qui sont conduites sont de Boko Haram. On enregistre de plus en plus une forme de banditisme. Là où souvent on prend des personnes en otage et on demande une rançon, ou des personnes sont tuées parce qu'elles sont détentrices du pouvoir économique, ou parce que simplement on imagine que ces personnes-là collaborent avec l'armée ou des choses comme ça. Mais en tout cas, l'attaque frontale avec les forces de défense et de sécurité sont rares.
C'était Lamido Moumouni Haruna, député de Difa au Niger.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur la Somalie, meurtri comme jamais auparavant. L'attentat de samedi à Mogadiscio est le plus meurtrier de l'histoire du pays. Les Américains se disent prêts à renforcer leur soutien militaire aux Somaliens. Mais pourquoi la Somalie est-elle toujours le théâtre d'attaques terroristes? La tragédie complique-t-elle davantage la tâche du président Mohamed Abdullahi Mohamed après ses 9 mois au pouvoir? La communauté internationale fait-elle assez pour sauver ce pays, surtout face au danger Chebab? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Le président de la CAF estime légitime que l'Afrique organise le Mondial 2026. Dans une interview exclusive à VOA Afrique à partir de Rabat, où il est en déplacement, le président de la Confédération africaine de football, la CAF, revient sur l'attribution du CHAN 2018 au Maroc, l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun et la prochaine attribution du Mondial 2026. Nicolas Pinault a joint le président Ahmad.
Vous savez, moi je suis président des 54 pays africains. Au moins, il y a un pays africain qui a la possibilité et le moyen d'accueillir une Coupe du Monde. Ça fait déjà une fierté à nous tous, nous Africains. L'Afrique, quoi qu'on dise, c'est parmi les 4 grands continents et parmi les 2 très grandes en termes de nombre. On vit dans la démocratie. Et on n'a organisé qu'une seule fois la Coupe du Monde. Donc c'est tout à fait légitime si aujourd'hui l'Afrique réclame une deuxième organisation.
Le prochain grand rendez-vous, c'est la CAN 2019. Vous avez récemment apporté votre soutien au Cameroun qui organise cette compétition. C'est la fin de la polémique?
Moi, je n'ai jamais dit qu'on retire du Cameroun de l'organisation. À aucun moment. Je suis un président qui vient de succéder notre administration. Il y a certaines règles qu'il faut toujours respecter. Moi, par contre, on est intransigeant. La CAF actuelle, les dirigeants de la CAF actuelle, dont moi-même, est intransigeant sur le respect de cahier de charge. Et on a revu notre cahier de charge. Si le Cameroun est honoré pour ces compétitions, il répond favorablement à toutes les exigences, aucun souci, j'avais toujours dit. Moi, par contre, j'avais dit, mais je le répète, au moment où j'avais dit que le Cameroun n'était pas pris. La preuve, c'est que le lendemain de ma déclaration, les autorités politiques ont signé le contrat avec certaines entreprises pour des infrastructures. Et quelques semaines après, le gouvernement a mis en place le comité d'organisation. Alors, en tant que premier responsable, le propriétaire de la Coupe d'Afrique des Nations, j'ai pas droit d'être inquiet.
Donc vous estimez que vos propos ont été utiles au Cameroun?
En tout cas, il y a un progrès, il y a une évolution de la préparation depuis mon intervention. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous demandez où est surtout la Côte d'Ivoire, le comité d'organisation a été mis en place depuis un certain moment. Voilà un pays qui est déjà en avance. Qu'est-ce que je peux dire si c'est de désencourager? Donc, quoi qu'il en soit, c'était nécessaire en partie. Et je sais que beaucoup de Camerounais qui me connaissent ou qui ont la facilité de me contacter m'ont remercié jusqu'à mon intervention.
À l'époque, votre prédécesseur Issa Ayatou avait critiqué vos propos. Cela vous a touché?
Non, je laisse à vous de voir pour quelqu'un qui a dit qu'il va m'aider. Et voilà sa première contribution.
C'était le président de la Confédération africaine de football, le président Ahmad. Un entretien à retrouver sur voafrique.com. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Jean-Roger Dion pour le suivi de l'actualité et Michel Joseph pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.